Bonjour Anne-Marie Aubin.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, je me demandais s'il fallait prononcer Télisson ou Télisson aurélien.
J'ai entendu à la radio Télisson.
Ah, Télisson, bon, OK. Ouais. Alors, c'était ça ou mourir, c'est le livre dont tout le monde parle, que je n'ai pas lu, mais que vous avez lu.
En effet, qui est paru chez Boréal au printemps, en mars en fait, et qui depuis fait vraiment un grand succès international. Boréal dit que ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'édition chez eux, quelque chose qui sort si vite partout chez un primo-romancier, il faut le dire aussi. Alors, cet homme né en Haïti serait arrivé à Montréal, d'après ce que j'ai lu, suite au séisme de 2010. Et puis, bon, ben, suite à tout ça, il a décidé de raconter pas seulement son exil, sa route, mais surtout le drame humain qu'ont vécu tous les migrants qu'il a rencontrés lors de son exil à travers 12 pays qu'il a traversé pour arriver finalement par le chemin Roxham à Montréal. Alors, il est finaliste déjà pour le Renaudot, le Goncourt dans la première liste. Il est finaliste au prix des premiers romans. Il est aussi finaliste au prix du roman FNAC et plusieurs autres. Et c'est pas fini, là. On va voir qu'il va être partout bientôt. 26 éditeurs ont demandé les droits et il est traduit en 22 langues. C'est quelque chose qui doit l'époustoufler lui-même.
C'est un premier roman pour lui, en plus.
Oui, puis quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays, enfin, c'est extraordinaire. Et en fait, c'est un homme très humble. Et c'est le propos de ce livre-là qui nous bouleverse, qui nous chamboule, parce que c'est vrai, parce qu'on y croit, puis parce qu'on se sent tellement impuissant devant ces grandes choses. Alors, c'est un roman parce qu'il s'est servi de son expérience, mais il a romancé, bien sûr. C'est divisé dans trois grandes parties, puis ça réunit 34 chapitres et un épilogue qu'on dévore, une page après l'autre. Alors, la première partie s'intitule « Les balles ne tuent pas les rêves ». C'est l'histoire de l'exil, finalement, qui va quitter Haïti. La deuxième partie s'intitule « Marché droit ». Ça fait partie de la longue traversée qu'il va faire. Et le dernier, « Le froid ne tue pas les braves », alors vous comprendrez que c'est son arrivée au Québec. Et c'est toujours le choc des gens qui viennent des pays chauds de traverser l'hiver que nous-mêmes, on trouve parfois très long. Alors, le narrateur s'appelle Jonas d'Orléans. C'est un titre qui s'est donné, qui est très près de lui-même, on comprend. Il a 29 ans, orphelin de père et de mère. Il est prof d'histoire dans un lycée là-bas en Haïti. Puis un matin, il le dit, c'est le 17 août, sa maison flambe. Alors face à ça, pour survivre, ben, il n'y a pas le choix, il doit quitter. Et tout au long de sa route, il va observer, écouter les gens, leurs fragments de vie, ce qu'ils croisent, qui est absolument hallucinant parfois, mais qui fait partie de la violence, des fraudes, des vols qui vont être sur la route des migrants. C'est aussi, à travers tout ça, une grande humanité, puis une volonté très forte de survivre. On n'a pas le choix. Et il dit, je le cite, « Entre les survivants, il y a une langue qui ne s'apprend pas, elle se ressent. » Effectivement, des fois, ils ne parlent pas, mais juste le regard, les gestes, fait que tout le monde se comprend. Puis pour tout bagage, quand il quitte en Haïti, vu que tout flambe, il a un sac de plastique dans lequel il y a la photo de sa mère, un carnet de poèmes, rien du tout, là, un sous-vêtement. Et il va traverser tout ça avec le fameux sac. À un moment donné, son sac va être remplacé par un sac Carrefour. Carrefour, ce sont des épiceries en Europe. Mm-hmm. Donc, il est transparent, puis il dit que ce sac-là, c'est son autobiographie par objet. Et ces objets-là racontent plus que mes mots, je les cite ici. Alors, donc, les propos sont parfois personnels. Il raconte un peu ce qui lui est arrivé à travers ce monsieur-là, mais aussi les odeurs. Parfois, ça sent mauvais. Parfois, il dort par terre. Les sensations, le froid, la pluie et les observations parfois philosophiques sur la vie, sur la survie, sur l'exil. C'est quelqu'un qui est un littéraire. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans son sac, il y a un livre aussi. Alors donc, c'est quelqu'un qui est très près des mots. Et ça, il le décrit très bien. Comment est-ce que parfois, il va changer d'identité. Quand il va être à une autre place, il va s'appeler José González au lieu de Jonas parce que ça passe mieux à la douane.
Et le livre qu'il a dans son sac, quel est-il?
C'est De Pestre, c'est un auteur haïtien important. Qui a été un personnage politique aussi. Donc, c'est comme pour lui, peut-être, ses racines. pour mieux traverser tout ce qui l'attend après dans l'inconnu. Et puis, ben, il y a des déceptions, il y a des drames, évidemment, dans cette histoire-là. C'est pas toujours facile. Et puis, à un moment donné, il est avec un Péruvien qui s'appelle Rolando qui lui dit « J'espère que si on meurt, je mourrai avant toi. Parce que si je meurs avant, au moins, toi, tu pourras le raconter. » Alors, les gens comprennent que cet homme-là est instruit, cet homme-là sait écrire, sait raconter. Et puis lui, cette phrase-là lui tourne en tête, puis finalement, ils vont survivre tous les deux. Puis il dit « Au fond, les survivants doivent porter les récits des disparus. » Et voilà, c'est ça le texte. C'est la grande humanité de cet auteur face au drame qu'ont vécu les gens autour de lui. Et parfois, c'est vraiment atroce, là. Alors, il a une manière de raconter aussi qui est très intéressante. Il va dire le Québec, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais c'est ça. Et puis nous, c'est ce qu'on dit, par exemple, c'est l'hiver, c'est ça. Mais lui, non, c'est autre chose qu'il va voir. Et il dit qu'on vit une renaissance à chaque année ici. On sort de l'hiver difficilement, hein, le printemps, ça gèle. Puis là, tout à coup, il fait une chaleur torride. Il dit ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, c'est bien intéressant aussi les réalités qu'il va décrire, qui sont parfois sombres, mais avec un ton un petit peu plus léger, parce que c'est très violent, évidemment, qu'est-ce qu'il se raconte, mais il y a une langue très riche et colorée. Je vais vous donner un exemple. Il parle d'un garçon qui s'appelle Samson, mais qui était vraiment frêle à lire. Il l'appelle petit Samson. Il avait un téléphone avec un écran fendu en croix, comme si Jésus lui-même lui avait envoyé un texto de travers. Bon, des observations comme ça qui allègent la lourdeur des propos. Et il n'y a jamais de colère, hein? Il y a toujours une espèce de constatation, des questions. Et les dialogues sont écrits dans la langue du pays où il est. Alors, ça peut être quand il est en Haïti, au Brésil ou ailleurs. Et il y a toujours la traduction en français. Donc, comme quoi, pour lui, les mots, la langue, c'est très important. Et il va avoir un choc, d'ailleurs, au Québec, quand il entend des moué puis toué à Montréal. Il se demande quelle langue parlent ces gens-là. Puis, quelque chose de drôle aussi, il dit qu'il y a des titres qu'on vous donne sans vous consulter. Un jour, au Brésil, entre une file d'attente et une autre, on m'a déclaré demandeur d'asile. Rien que le mot me donnait des démangeaisons. Asile. Chez nous, en Haïti, on dit que les gens à l'asile parlent tout seuls, pleurent en riant ou se battent avec des papillons invisibles. Mais ici, au Brésil, asile voulait dire que tu avais peur de mourir là d'où tu venais. Donc, c'est très drôle comment le même mot, finalement, peut signifier des choses très différentes. Il dit, l'asile, c'est bien sur papier, mais dans l'estomac, ça pèse pas lourd. Pratiquement affamé, j'ai fait ce que mes ancêtres ont toujours fait, j'ai joué. Alors là, il va commencer sur la place publique à raconter qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu, des affaires qu'on lui a racontées, avec humour, pour faire rire les Brésiliens qui lui donnent des pièces de monnaie. Et c'est comme ça qu'il va réussir à survivre pendant le séjour, parce qu'il y a toujours des grandes files d'attente pour passer une étape, un formulaire, puis là, attendre un courriel ou un message qui te dit « oui, vous pouvez passer ». Fait que ça demande énormément de patience, de tolérance pour ne pas venir fou là-dedans. Mais il dit que tous les migrants sont traités comme des numéros, finalement, qui remplissent des formulaires. Mais il dit « nous, les migrants, ce dont on a besoin, c'est de se raconter, de raconter ce qu'on a vécu. » Alors, c'est peut-être pour ça aussi que lui, il va comprendre le rôle que tout le monde lui donne, celui de raconter ce que les autres ont vécu. Et puis, il finit par arriver à Montréal. Je vais rapidement vers la fin du texte, qui est pas facile, forcément, mais en même temps, qui est un grand soulagement. D'arriver dans un pays où il dit « tu peux être prof d'histoire sans te faire tirer ». Bon, bref, il y a les saisons qu'il apprivoise. Et la difficulté, c'est évidemment la difficulté de travailler. C'est très long avoir un permis. Donc, en attendant, il est bénévole. Et puis, il vit dans une espèce de petit sous-sol mal éclairé avec à peu près rien à manger. Puis, à un moment donné, il va avoir des sous. Il va être un coloc avec trois autres dans un petit appartement. Et puis, ces gens-là viennent de d'autres pays. Ils sont comme lui, des migrants. Et il y en a un qui lui dit, les langues, ce n'est pas fait pour traduire. C'est fait pour relier. Et effectivement, à un moment donné, lui, il y en a un dans ses colocs qui parle 9 langues parce qu'il veut s'intéresser à tout le monde. Il veut être capable de parler avec les gens. Et ses observations sur l'accueil des étrangers au Québec, ben ça, ça mériterait là, d'être publié, affiché sur les grands panneaux publicitaires partout au Québec, surtout en cette période électorale, pour avoir enseigné la francisation aux immigrants, pour avoir accueilli des Ukrainiens chez moi. Je peux vous dire que les formulaires et les sites sur Internet, c'est compliqué. Nous-mêmes, on a du mal à se comprendre. Et la lenteur des procédures et l'absurdité parfois de certaines situations. Donc lui, entre autres, qui est professeur, qui parle très bien le français, doit faire des cours de francisation. C'est incroyable, hein? Mais enfin... Il est reconnaissant quand même, malgré tout ce qu'il nous raconte qui va pas bien. Il dit, ici, la colère ne mène pas à la tombe, elle mène à la parole. Et moi, j'ai encore des choses à dire. Il dit, merci au Québec qui m'a donné la langue pour raconter tout ça. Merci aux gens, aux vrais, qui ne demandent pas d'où je viens, mais où je vais. Alors, excellent roman, je pourrais en parler des heures. J'ai pris des pages de notes de citations parce qu'il y a des phrases là-dedans qui sont tellement fortes. Moi, je dis que c'est la meilleure façon. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre qui m'a marqué comme ça pour connaître la vie des migrants, leur misère, leur profonde humanité. On m'a raconté souvent dans mes cours de francisation des horreurs qui se sont passées dans les traversées. Mais là, j'en ai encore une autre preuve ici. C'est un très grand roman qui va faire une longue route, j'espère. C'est un auteur qui a un excellent style personnel, qui a un grand talent. Et ce livre-là, on le ferme et on est troublé. On est sans voix. C'est à lire absolument. Je pense que j'ai rien d'autre à dire.
Oui, vous en avez beaucoup dit, ça s'entend et ça se ressent aussi que vous avez aimé ce livre, Anne-Marie.
Énormément, oui.
C'était ça ou mourir aux éditions Boréal et c'est Tellison Aurélien qui nous offre cette grande œuvre. Merci beaucoup, Anne-Marie. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.